Bonjour et bienvenue sur YogiBiz Podcast, le yoga teacher training du marketing pour les yogipreneurs qui veulent impacter des millions de vies positivement grâce au yoga. Je suis Cécile, coach et accompagnatrice digitale spécialisée pour les professeurs de yoga. Et chaque semaine, je vous délivre des inspirations, stratégies et conseils marketing éprouvés et applicables immédiatement pour vous construire un business de yoga authentique et rentable grâce aux opportunités du web. C'est parti! Bienvenue à toi sur YogiBiz Podcast pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais répondre à toutes les questions que tu te poses. Ça va être un épisode spécial foire aux questions. Alors, je vous remercie parce que j'avais fait une petite boîte à questions en story sur mon compte Instagram à YogiBiz Coaching et j'ai reçu beaucoup de questions. Donc, j'ai pu en sélectionner près d'une trentaine pour l'épisode d'aujourd'hui et j'ai vraiment hâte de partager tout cela avec vous. J'ai aussi reçu dans cette boîte à questions de nombreux témoignages de juste merci pour ce que tu fais et ça aussi, ça m'a fait forcément un immense plaisir. Et je vous partage d'ailleurs tout de suite un des derniers avis laissés sur Apple Podcast par Isa Sherpa qui m'écrit « Avec bienveillance et professionnalisme, Cécile partage les meilleurs moyens de se faire connaître et de se démarquer » tout en gardant son éthique quand on est prof de yoga. Merci pour ce podcast de qualité que j'attends impatiemment chaque lundi. Un grand merci Isa pour ton témoignage. Vous pouvez retrouver Isa sur Instagram sous le pseudo Isa Dolma Yoga. Et Isa, en fait, elle aide les futures mamans à vivre une première grossesse zen grâce au yoga et à la méditation. Et elle vient d'ailleurs de créer un super guide gratuit à télécharger sur les 6 étapes pour débuter la méditation. Et du coup, mon petit doigt me dit qu'une offre va bientôt voir le jour. Donc, je te souhaite, Isa, déjà beaucoup de succès à venir. Et si vous aussi, comme Isa, vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager sur Instagram, dans vos stories ou dans vos posts et à laisser un petit commentaire sur votre plateforme préférée. Ça sera super sympa. Sans plus attendre, je passe directement donc aux questions. Alors, première question, comment booster son compte Instagram pour acquérir une clientèle localement? Donc, c'est vrai qu'on me pose régulièrement la question. Alors, des petits tips. D'abord, pensez à localiser donc dans votre bio Instagram sur la première ligne, celle qui est en gras, sous votre photo de profil, pensez à localiser, entre guillemets, votre yoga. Par exemple, ça peut être yoga pour le mal de dos à Bordeaux. Voilà, vous pouvez déjà mettre en avant là où vous vous situez. Comme ça, les gens qui passent sur votre profil, les visiteurs, ils voient tout de suite en termes de localisation où vous êtes. Ensuite, vous pouvez utiliser dans vos légendes, dans vos posts, des hashtags locaux. Yoga Bordeaux, Bordeaux Yoga, etc. À vous de rechercher un petit peu ce qui se fait, s'il y a aussi des endroits où on pratique le yoga à Bordeaux, etc., etc. Donc ça peut être aussi intéressant. De la même façon, quand vous allez publier des stories, pensez à aussi mettre des petits stickers donc pour vous positionner dans la ville où vous êtes, puisque ça veut dire que du coup, votre story, elle va être visible sur les stories de la ville de Bordeaux, par exemple, si je garde mon exemple. Et aussi, pareil, en termes de hashtags, les hashtags dans les stories permettent aussi de développer votre visibilité. Donc, utilisez des hashtags, là aussi, locaux, géographiquement. Ensuite, en termes de stratégie, vous pouvez envisager des collaborations avec des partenaires, donc également locaux. Donc, quand je parle de collaboration, ça peut être des endroits où vous allez faire des événements. Et comme en ce moment, on est plutôt restreint en termes d'événements, ben, vous pouvez tout à fait envisager de faire un live, par exemple, sur le compte. d'un restaurant, par exemple, de votre ville, par exemple, un resto vegan ou un café, voilà, qui sert des boissons un petit peu latte, etc., et qui est susceptible, en fait, d'avoir une clientèle qui est aussi intéressée quelque part par ce que vous proposez, par le yoga, par la méditation ou par d'autres pratiques comme le Reiki, etc. Donc, cherchez des commerçants finalement locaux qui seraient susceptibles d'avoir dans leur clientèle des gens intéressés par votre marché, votre positionnement. Et puis ensuite, ce que je vous invite aussi à faire, enfin un autre petit tips, c'est de partager les contenus de d'autres comptes qui sont également locaux. Donc là encore, hein, ça peut être de commerçants. Par exemple, si vous avez dans votre ville une boutique qui vend des fringues de yoga, ou une librairie où vous avez trouvé un livre de yoga, ou donc encore une fois café, restaurant, etc., même si en ce moment c'est un petit peu restreint, mais voilà, donc ou même d'autres personnes dans votre univers qui ont la même, du coup, clientèle que vous, en tout cas qui ont le même client idéal, qui visent la même audience. Et donc vraiment capitaliser sur le partage de ces contenus-là dans vos stories, parce que du coup, en général, par effet ricochet, bah, ces gens-là vont aussi vous republier, parce qu'ils vont montrer que vous avez partagé une info sur eux en story, etc. Et du coup, bah, c'est ce qui permet en fait d'élargir la toile et de se faire connaître au lieu de vous faire connaître que auprès de votre audience ou d'une audience potentielle, vous vous faites aussi connaître puisque vous allez passer, entre guillemets, dans la story de tous ces autres comptes qui vont vous republier. Donc, c'est comme ça que vous pouvez capitaliser sur votre visibilité et particulièrement, du coup, si vous voulez acquérir une clientèle localement. Donc, voilà. Cherchez et identifiez quels sont les comptes, les commerces, les partenaires éventuels qui localement peuvent vous offrir aussi une visibilité et qui partagent, bien évidemment, ça c'est important, les mêmes valeurs que vous et donc aussi la même le même client cible, le même public cible. Deuxième question, par où commencer concrètement en ligne? Alors, d'abord, pour se lancer en ligne, il faut se positionner. Ok, donc j'en parle tout le temps, mais c'est vraiment, ça fait partie des fondations de votre business en ligne. Voilà, il faut savoir sur quel marché, sur quelle niche, il faut vous spécialiser, parce que sinon, effectivement, vous allez être noyé dans un grand océan, alors que vous, ce que vous voulez, c'est être le gros poisson dans un petit étang. Et donc, il faut trouver ce petit étang qui est votre niche, le marché auquel vous allez vous adresser. Ensuite, bah, il faut connaître ce client idéal, ce client qui est votre niche, il faut le connaître. Quels sont ses projets, ses habitudes, ses envies, ses problèmes, ses modes de consommation, ses besoins, etc., etc. Donc, pour ça, vous allez devoir engager la conversation avec lui, peut-être faire des interviews, réaliser des sondages, etc. Donc, pour créer tout ce lien-là, il va falloir que vous créez du contenu qui va servir, qui va répondre à la problématique de votre client idéal, de ce fameux client idéal-là. Donc pour ça, je vous recommande d'avoir un type de contenu hebdomadaire dans lequel vous allez pouvoir mettre en avant votre expertise et puis par exemple un réseau social sur lequel vous allez pouvoir un petit peu vous servir de ce réseau comme d'une vitrine. Ok, ça vous permettra aussi ce contenu, ce contenu hebdomadaire de qualité et ce réseau social de montrer votre personnalité et donc forcément de créer du lien avec une audience. À partir de là, vous allez mettre en place une stratégie d'emailing. C'est-à-dire que comme vous connaissez votre client idéal et vous apprenez de mieux en mieux à connaître ses problématiques, vous allez pouvoir créer en fait donc ce qu'on appelle un cadeau gratuit, en échange duquel votre client idéal va vous laisser son adresse mail. Et donc, cette adresse mail va petit à petit vous permettre d'alimenter et de développer votre mailing list. Et à partir de là, vous serez prêt pour créer une offre. Alors, quand je dis créer une offre, c'est en tout cas penser une offre et les contours d'une offre qui va répondre aux problématiques de votre client idéal, lui proposer et valider cette idée d'offre avec votre client idéal, donc via justement vos réseaux, vos contenus, votre emailing, etc. Et bah, une fois que cette offre sera validée, voire même testée, enfin validée en tout cas, vous n'aurez plus qu'à la tester ou en tout cas à la lancer. Et ensuite, au fil de l'eau, vous viendrez l'améliorer. Donc, on récapitule, positionnement, connaître son client idéal, stratégie de contenu avec un contenu donc régulier et de qualité, à la fois pour se positionner comme expert et puis pour créer du lien et voilà faire connaissance, une liste email et enfin, penser une offre, la valider auprès de son public cible et la lancer. Dans une version très simple au début, mais ça c'est un autre sujet, et puis ensuite effectivement l'améliorer. Donc voilà comment vous pouvez concrètement, en tout cas, enfin commencer en ligne pour lancer un produit, quoi, pour lancer un produit digital. Troisième question, quel est le meilleur réseau pour communiquer ? Alors j'ai un peu une réponse spontanément qui me vient, c'est celui où se trouve votre client idéal. En fait, si votre client idéal, il est sur LinkedIn et que vous communiquez sur votre page Facebook, vous allez avoir du mal à vous rencontrer. Donc, on va avoir du mal à avoir un match, hein. OK ? Donc, ça, c'est la première réflexion. Ça fait partie justement des recherches et de la connaissance de son client idéal. Sur quel réseau il est le plus, sur lequel réseau il aime le plus consommer du contenu. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis, bien évidemment, il y a quand même une partie aussi du réseau sur lequel vous avez envie d'être et en tout cas sur lequel vous êtes le plus à l'aise. Donc à partir de peut-être de différents choix de là où est présent votre client idéal, bah, peut-être que vous allez en sélectionner un parce que c'est quand même celui qui vous correspond le plus, qui correspond le plus à votre personnalité, avec lequel vous vous sentez le plus à l'aise. Et ça, c'est aussi OK et c'est important parce que c'est ça qui va faire du coup que vous allez être régulière dans votre communication si vous aimez le réseau sur lequel vous travaillez. Donc, c'est quand même non négligeable. Quatrième question, comment avoir des abonnés et une vraie communauté sans les acheter comme beaucoup de comptes ? Alors, c'est vrai que j'ai retenu cette question parce que je suis encore étonnée qu'aujourd'hui, en tout cas, dans le business en ligne et pour nous, enfin dans nous profs de yoga, etc., acheter des comptes, vraiment, ça n'a aucun intérêt. C'est vraiment de la perte d'argent et de la perte de temps. Parce que par rapport à ce que je viens de vous expliquer précédemment, en fait, si vous faites ça, c'est la pire erreur que vous pouvez faire parce que du coup, vous allez vous adresser à des gens qui ne sont pas du tout votre client idéal. Ce qui fait qu'il ne va pas y avoir de rencontre entre votre contenu et ces abonnés-là. Du coup, il n'y aura pas d'engagement. Donc en plus, si vous n'avez pas d'engagement, non seulement ça va vous décourager, mais en plus, vous n'allez pas être mis en avant par l'algorithme. Vous ne pourrez pas être aiguillé justement dans la création de vos contenus ou de vos offres par des sondages ou des enquêtes puisque ce n'est pas forcément la personne à qui vous voulez vous adresser qui va vous répondre. Donc, vous risquez de créer du coup des produits ou des contenus à côté de la plaque. Donc voilà, ça peut aller très loin en fait si on se trompe de stratégie. Donc vraiment, mon meilleur conseil, c'est globalement, il vaut mieux avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de followers. Mais par contre, que ces abonnés, ça soit des abonnés qualifiés, donc qui correspondent à votre public cible, et surtout, ces abonnés, les transformer en contact dans une liste email. Ça, c'est vraiment les deux choses qui sont les plus importantes. Et pour ça, oui, il va vous falloir un petit peu de patience. C'est-à-dire que effectivement, votre compte Instagram, il va peut-être pas exploser du jour au lendemain en termes de nombre d'abonnés et d'engagement, mais c'est OK. Il va falloir persévérer un petit peu avant, effectivement, d'avoir un nombre d'abonnés peut-être qui vous fait envie. Mais c'est pas pour ça que vous pourrez pas vendre, c'est pas pour ça que vous aurez pas d'engagement, c'est pas pour ça qu'au contraire, vous allez pas pouvoir développer votre business en ligne. Donc vraiment, prioriser le fait de développer une audience qualifiée sans passer par toutes ces stratagèmes de groupes d'engagement, etc. C'est hyper chronophage, c'est consommateur de temps.
Et ça, enfin, in fine, c'est pas une stratégie gagnante. C'est ce qu'on peut appeler des petites techniques, mais franchement, c'est des techniques pourries qui vous aideront pas à développer votre business. Donc, vraiment, créer du contenu qui répond à la problématique de votre client idéal, créer du lien et petit à petit, votre compte va se faire connaître, votre contenu aussi, et vous allez développer votre nombre d'abonnés. Et encore une fois, on n'a pas besoin d'avoir 10 millions d'abonnés. On n'est pas des influenceurs. Donc, on n'a pas besoin d'avoir 10 millions d'abonnés pour vendre nos offres. Cinquième question, comment préparer le terrain, réseaux sociaux, moyens à mettre en place, etc. avant même d'avoir son yoga teacher training. Alors, déjà dans un premier temps, je dirais que ça va peut-être dépendre de si vous avez déjà une idée justement de ce que vous voulez faire ou pas. C'est-à-dire que bah, peut-être que par exemple, si vous écoutez tous les podcasts de YogiBiz depuis le début, vous avez bien intégré qu'il faut se positionner, avoir un client idéal, etc. Et donc peut-être même qu'avant d'aller faire votre yoga teacher training, vous avez déjà une prédilection pour un sujet en particulier, pour un client type en particulier. Auquel cas, vous pouvez très bien déjà commencer à créer un compte Instagram, du contenu hebdomadaire de qualité, pourquoi pas même aller jusqu'à un lead magnet en fait qui répond à la problématique ou à des questions qui tournent autour de ce que vous connaissez de votre marché, de votre positionnement, de votre niche, de votre client idéal. Et du coup, vous allez communiquer sur le fait que bientôt, voilà, vous pourrez, grâce à votre formation, les accompagner sur cette problématique, grâce au yoga, par exemple, si votre formation, donc vraiment, enfin, si la majorité de votre formation, c'est du yoga, comme un yoga teacher training. Et du coup, l'avantage, c'est que vous allez déjà parler de votre future offre, de ce que vous envisagez de faire, etc. Et donc, les gens, ils vont en fait rentrer dans l'histoire et ils vont vous suivre. Et finalement, ça va aussi créer de l'attente autour de ce que vous allez leur proposer ensuite. Et donc, en plus, vous allez les emmener avec vous dans les coulisses de votre yoga teacher training. Et la magie, c'est qu'à votre retour, vous allez même pouvoir du coup leur demander, voilà, par rapport à ce qu'ils ont vu, par rapport à ce que vous avez partagé avec eux, etc., par rapport à, donc à la problématique qu'ils ont, du coup, par rapport à tout ça, bah, qu'est-ce qu'ils aimeraient que vous fassiez, que vous leur proposiez, sous quelle forme, comment ils ont envie d'apprendre ça, comment ils ont envie de pratiquer le yoga avec vous, etc., etc. Donc, en fait, vraiment, vous allez les embarquer dans votre histoire et finalement, ils vont être hyper acteurs de ce que vous allez avoir envie et de ce que vous allez proposer après le yoga teacher training. Donc, au contraire, c'est une très, très, très bonne idée déjà de créer du lien avec une audience si vous avez déjà en tête une idée de positionnement. Si c'est pas le cas, ben vous pouvez faire exactement la même chose autour du yoga, donc c'est ok, et vous partagerez justement quand même votre expérience, etc. Et puis à votre retour, bah, du coup, il faudra vous poser les vraies questions en termes de positionnement, mais peut-être que votre yoga teacher training va vous emmener aussi sur des nouvelles pistes ou sur des pistes auxquelles vous n'aviez pas pensé. Et c'est à partir de là, du coup, que vous pourrez vous positionner et créer des produits. Mais vous aurez probablement déjà sur votre compte, du coup, des gens qui sont intéressés par le yoga. Donc, ça peut être quand même un bon début pour vous faire la main en tout cas. Sixième question, les stories Instagram sont-elles aussi importantes que les posts? Alors, j'aurais presque envie de dire, mais je me ferais peut-être taper sur les doigts par les puristes du marketing digital, mais je dirais qu'à choisir aujourd'hui, vaut mieux passer plus de temps en story. Finalement, je pense qu'être présente en story tous les jours et derrière peut-être publier 3 posts par semaine, ça peut être un très très bon équilibre en termes de visibilité pour vous faire connaître et pour encore plus, je pense, créer du lien avec votre audience que par des posts. En fait, la question, elle est toute simple, c'est qu'est-ce que vous faites, vous, quand vous allez sur votre compte Instagram? Est-ce que vous regardez d'abord les stories ou est-ce que vous scrollez d'abord votre feed? Et je pense que plus de 50% d'entre nous, d'ailleurs statistiquement, ça serait plutôt autour de 70 à 80%, on a tendance maintenant mécaniquement à regarder plutôt les stories. Parce que c'est quelque chose de spontané, de vivant, d'authentique. Et puis, c'est un peu le quotidien des gens et on aime bien ça, on est friand de ça. Donc, du coup, je dirais que déjà, les stories, ça correspond de plus en plus dans les habitudes au mode de consommation des visiteurs sur Instagram. Ensuite, l'algorithme Instagram, il est assez favorable aux stories dans le sens où c'est un peu, enfin c'est le dernier qui a parlé en story, dans les stories que vous avez l'habitude du coup de regarder, qui dès qu'il y a une nouvelle story de faite, en fait, ça ramène le compte au début de votre story. Donc du coup, si vous faites des stories assez régulièrement dans la journée, alors vous n'êtes pas obligé hein, de les faire, voilà, vous pouvez les préparer et les poster au fil de la journée. Vous n'êtes pas obligé de passer tout votre temps à faire des stories dans la journée, mais ça, c'est une autre question, c'est plutôt de l'organisation. Mais ça veut dire que, voilà, à chaque fois que vous allez créer une story, que ce soit 15 secondes, 30 secondes ou plus, du coup, vous allez revenir, en fait, sur le devant de la scène, j'ai envie de dire, dans les highlights là, de story. Donc, du coup, ça, c'est aussi extrêmement favorable parce que du coup, il n'y a pas de l'algorithme, enfin, ça joue pas, en fait, selon l'engagement sur votre story, etc., etc. Donc ça, c'est plutôt favorable. Les stories, bah, ça dure quand même 24 heures, alors qu'un post, autant vous dire qu'au bout de quelques secondes, à part si c'est un Reels, mais un post classique, il est déjà noyé, finalement, dans un feed d'actualité. Donc, du coup, effectivement, il y a aussi la portée du coup de votre story hein, qui dure plus longtemps. Et puis, les gens s'engagent aussi, d'une manière générale, plus facilement en story, surtout si vous utilisez les stickers de questions, de sondages, de petites barres d'humeur, là, etc. Du coup, c'est hyper favorable aussi quand vous me demandez des techniques pour interagir plus avec ou créer plus de liens avec ses abonnés. Bah, les stories, ça en est une. Donc ensuite, bah, vous pouvez vous montrer ou pas. Hein. Alors moi, je trouve que c'est plus percutant quand on nous voit régulièrement. Maintenant, voilà, vous pouvez aussi, moi je le fais souvent, je filme mon écran par exemple, je filme ce que je suis en train de faire et puis parfois ça m'arrive de parler. Du coup, il y a quand même une voix off, donc il y a quand même un lien qui se crée avec la voix. Bon, moi j'ai le podcast, donc de toute façon le lien se fait par ce biais-là, mais voilà, ça amène quand même quelque chose en plus si vous voulez pas vous montrer, d'utiliser éventuellement votre voix, mais aussi du coup vous pouvez poster tout un tas de trucs, des photos de ce que vous faites, de vos coulisses, etc. L'avantage aussi, c'est que vous pouvez intégrer pas mal de stories dans les highlights. Vous savez, c'est stories permanentes. Donc là, vous pouvez faire des catégories et du coup, bah, garder des choses que vous publiez en story qui sont importantes pour votre visiteur et qui répond à votre public cible. Contrairement aux posts, alors c'est vrai que maintenant, on peut les archiver dans l'option des guides. Mais effectivement, les stories et le fait que les highlights de stories soient vraiment tout de suite sur la première page, sur le haut de l'écran, c'est aussi assez favorable. Et puis, bah oui, les stories, on voit vos coulisses, on voit votre personnalité, on voit un peu ce que vous mangez, ce que vous faites, etc. Et ça, les gens aiment bien. Ils aiment bien vous connaître, en fait. Donc du coup, je dirais que c'est presque... Ouais, c'est plus important pour moi, à mon sens, aujourd'hui, les stories que les posts. Et même si les deux hein, ont des fonctions différentes. Et en tout cas, je vous encourage vivement à faire à minima, parce que comme la story dure 24 heures, à minima une story par jour. Et si au début, vous n'êtes pas très à l'aise, eh ben servez-vous de votre post justement pour le repartager en story et commencer à vous habituer à publier en story comme ça. Septième question, comment réussir à se démarquer des autres professeurs ? Alors... Déjà, par définition, vous êtes unique. Votre style, votre personnalité, votre parcours, votre expérience, tout ça, c'est globalement, c'est unique. Donc, bon, une fois qu'on va vous connaître, forcément, vous allez avoir des éléments différenciateurs. Maintenant, l'élément de vente, et l'élément pour lequel on va plus vous suivre ou plus travailler avec vous, c'est, on en revient toujours, à votre spécialisation. C'est-à-dire à qui vous allez vous adresser, dans quel univers, parce que du coup, les gens vont vous suivre pour cette bonne raison. C'est-à-dire que si vous êtes prof de yoga comme tous les autres versus prof de yoga spécialisé pour les triathlètes, bah évidemment que les gens qui sont triathlètes d'une part ou qui font beaucoup de sport d'autre part, vont avoir tendance à vous suivre parce qu'ils se disent que vous avez donné des conseils de yoga qui sont directement en lien avec les problématiques ou les besoins qu'ils ont dans leur passion ou leur, enfin si c'est leur travail aussi, ou enfin voilà. Et donc, du coup, ça va forcément peut-être plus les intéresser que si ils suivent une prof de yoga lambda. Ou encore même, ça va permettre justement d'avoir la bonne offre et la bonne demande parce qu'on va avoir ces élèves intéressés par le yoga, par exemple, pour les triathlètes. Chose que si moi, je fais du yoga plutôt pour les mamans, bah forcément, autant que ces gens-là, ils perdent pas leur temps sur mon compte et vice-versa. Donc du coup, voilà, se spécialiser, forcément, ça va vous permettre de vous démarquer et d'attirer à vous des gens qualifiés. Après, vous pouvez aussi regarder ce qui existe et comment c'est fait. Et à partir de là, qu'est-ce qui vous inspire et que vous avez envie de garder et qu'est-ce qu'à l'inverse, vous allez justement faire différemment pour créer justement un argument un petit peu différenciateur ou mettre en avant quelque chose que vous avez et que d'autres n'ont pas. Donc, voilà comment vous pouvez vous démarquer des autres. Mais en tout cas, pour moi, la meilleure stratégie de différenciation, c'est votre positionnement. Et après, bah, vous, effectivement, ce que vous êtes, ce que vous faites. Et une dernière chose par rapport à ça, je dirais que le positionnement, quoi qu'il en soit, vous en avez besoin pour créer un business en ligne, même pas que en ligne, mais en tout cas pour le business en ligne, c'est incontournable. Et après, je vous recommande d'être focus sur ce que vous faites et pas trop non plus vous occuper de ce qui se passe à côté. Voilà, je dis pas de mettre des œillères, mais ne comparez pas trop, surtout ne copiez pas, ça ne fonctionnera pas. Gardez votre authenticité, voilà, encore une fois, en vous inspirant de ce que vous aimez et ce qui fonctionne et en allant chercher de la différence sur d'autres points. Donc, restez focus sur là où vous avez envie d'aller et ça, je dirais que c'est le meilleur chemin pour réussir, pour avoir du succès et du coup, bah, pour in fine vous démarquer. Huitième question, comment rester présente sur les réseaux sans y passer un temps fou? Alors oui, j'aime bien aimer cette question parce que je sais que des fois, il y a un facteur temps ou chronophage aussi. Hein. Je sais que certains d'entre vous n'aiment pas du tout passer du temps sur les réseaux alors que bah, c'est vrai que ça... Enfin, en tout cas, sur la création de contenu, et c'est quand même une priorité bah, pour trouver des clients aujourd'hui. Donc, je dirais déjà... Alors, ma première recommandation, c'est de créer du contenu avant de consommer celui des autres. Alors ça, c'est une petite citation, une petite phrase que j'aime bien. Je crois d'ailleurs que ça vient du livre de Marie Forleo. Et franchement, c'est vrai. Enfin voilà, pensez déjà à vous, ce que vous avez envie de créer avant de passer et de perdre votre temps justement à scroller. Parce que souvent, comment rester présente sur les réseaux sans y passer un temps fou? En fait, ce qu'on se rend pas compte, c'est qu'on passe un temps fou à consommer du contenu. Et donc du coup, après évidemment, on dit « ouais, moi j'ai pas le temps de créer ». Mais déjà, on va essayer de passer un petit peu moins de temps à scroller et se concentrer sur notre création de contenu à nous en priorité. Mon meilleur conseil ensuite par rapport à ça, c'est de batcher votre création de contenu. Donc vraiment de bloquer un moment dans votre agenda et de voilà vous dire ok le lundi matin par exemple ou le vendredi après-midi je m'occupe de mon contenu par exemple Instagram et à partir de là de programmer donc là en l'occurrence la question c'était surtout sur les réseaux donc sur Instagram de programmer vos posts que l'avantage de programmer vos posts donc de batcher déjà c'est que vous allez par exemple faire votre semaine de contenu. Moi, je batch à la semaine. Et une fois que c'est programmé, vous n'avez plus du tout à vous en occuper. La seule chose que vous allez donc avoir à faire à partir de là, c'est d'identifier un créneau dans votre journée. Et ça, c'est tout aussi important d'ailleurs pour ne pas perdre trop de temps. Identifier un créneau horaire auquel vous allez répondre à vos messages et interagir, répondre à vos commentaires, etc. Donc, en fait, vous créez une petite routine autour de ça. Mais c'est la seule chose que vous aurez ensuite à planifier quotidiennement. Donc par exemple, vous pouvez très bien vous dire « je batch ma création de contenu le lundi matin, j'ai un post qui sort le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi par exemple, et moi, tous les jours, j'irai répondre à mes commentaires ou répondre à mes mails. Bah, ça peut être le matin avec votre café, ça peut être le midi après le dessert ou j'en sais rien, ou en fin d'après-midi avant votre dernier cours et basta. Et ça, ça va vous permettre vraiment d'optimiser de votre temps, d'éviter que ce soit chronophage et d'éviter de vous perdre dans les méandres d'Instagram, mais d'en faire un outil au service de votre business, comme je le dis souvent. Ensuite, pensez aussi, dès que vous trouvez des idées, des visuels, qu'il y a quelque chose qui vous plaît, essayez de rassembler tout ça dans un seul et même endroit et ça vous aidera du coup pour votre création de contenu quand vous serez en batching. Et ça aussi, enfin, du coup, ça va améliorer votre productivité et ça rendra l'exercice plus agréable. Neuvième question, quel produit développer ? Alors, le meilleur produit, c'est le produit qui répond aux besoins de votre client idéal. C'est celui que votre client idéal, il veut. Donc, pour savoir ce qu'il veut, vous allez forcément devoir passer par des sondages, des interviews, des enquêtes et apprendre, voilà, enfin, comprendre comment votre client a envie, par exemple, voilà, d'apprendre le yoga ou prendre des cours avec vous, etc. Est-ce qu'il préfère la vidéo? Est-ce qu'il préfère l'audio? Est-ce qu'il a besoin d'un accompagnement? Combien de fois par semaine? Combien de fois il veut pratiquer? Plutôt le matin, plutôt le soir, etc., etc. Et à partir de ça, vous allez pouvoir créer, en fait, le produit qui va correspondre aux attentes de votre audience cible, de votre public cible. Et donc, du coup, là aussi, vous serez sûr, entre guillemets, de taper dans le mille, même si ce sera toujours perfectible. Mais voilà. Donc, qu'est-ce que veut votre client idéal? Quel problème il a besoin de régler et là où vous pouvez vous l'aider? Et ensuite, de quelle manière il veut que vous lui transmettiez ça? Donc, en posant un maximum de questions, vous aurez les réponses sur quel produit idéal développer pour votre audience. Dixième question, quelles sont les choses essentielles à savoir sur l'algorithme d'Instagram afin d'augmenter sa visibilité? Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai choisi de garder cette question. Juste pour repasser un message, c'est que l'algorithme, il est innocent, il est ni contre vous, ni avec vous. Ok, l'algorithme, c'est des mathématiques, il observe juste ce qui se passe quand vous postez un contenu. Et si ce contenu-là, il a de l'engagement, donc l'engagement, si vous avez 50 abonnés et que vous avez 20 likes, enregistrements, partages, etc., vous, ça peut vous paraître pas grand-chose, mais en fait, l'engagement, c'est ce qui se passe sur votre compte versus votre nombre d'abonnés, ok ? Donc, c'est ok, même si vous êtes un petit compte avec une petite audience, c'est ok. Et en fait, l'algorithme, il va partir de ces stats-là, entre guillemets, pour se dire, ok, je le montre plus, je le mets plus en avant, à plus de visiteurs possibles, ou dans les hashtags, etc. Enfin non, les hashtags, c'est une autre histoire, mais je le montre plus, ou ça intéresse personne, donc voilà, il passe tout de suite la seconde d'après votre post, et il n'est pas mis en avant. Mais c'est tout, et à juste titre, en fait, c'est qu'Instagram, il veut nous présenter du contenu qui nous plaît, par rapport à ce qu'on a l'habitude de regarder. Donc, d'où l'importance, en fait, de créer du contenu de valeur. Parce que si c'est pour poster un truc qui n'a rien à voir avec, du coup, votre audience ou autre, forcément, vous n'aurez pas d'engagement. Et donc, forcément, Instagram, il va passer à côté. Il n'a pas le temps pour ça, quoi. Donc, l'algorithme, il est ni avec vous, ni contre vous. Il est neutre. Il fait juste son job de dire « Moi, je vais présenter les meilleurs contenus aux gens les plus intéressés par ce contenu-là. » Et donc, si un post, quand il sort, il a immédiatement de l'engagement et ça fonctionne, eh ben effectivement, il y a plus de chances que plus de monde le voit, point barre. Donc, voilà, c'est d'où l'importance. Hein. C'est pour ça qu'on dit toujours qu'il faut créer du contenu de qualité et de valeur ajoutée qui s'adresse à une audience spécifique qui va du coup interagir parce que c'est un sujet qui l'intéresse et c'est comme ça que vous améliorez votre visibilité. Et après, effectivement, il y a aussi le choix de vos hashtags, mais c'est encore un petit peu le même principe en fait. Onzième question, quels sont les éléments essentiels pour réussir? Alors, j'aime bien cette question et j'ai choisi de l'aborder plutôt sur des aspects de mindset, plutôt que sur des outils ou des stratégies ou des méthodes ou autres. Donc, pour moi, le premier élément essentiel pour réussir, c'est le focus. C'est d'être focus sur l'offre, par exemple, qu'on veut présenter, ou si on est dans une démarche de se faire connaître et travailler notre visibilité, c'est d'être focus sur cet objectif-là. Ok, donc effectivement, ça veut dire que en préambule, il faut connaître ses objectifs et avoir une stratégie, mettre en place une stratégie qui répond à nos objectifs. Ok, donc si mon objectif c'est de me faire connaître, ça veut dire que je vais mettre en place une stratégie pour améliorer ma visibilité. Donc je vais lister tout ce que je peux faire pour améliorer ma visibilité, tant dans mes contenus que dans peut-être la création de lead magnet, enfin donc c'est du contenu, mes collabs, etc., etc. Quelles sont toutes les actions que je peux mener pour travailler sur ma visibilité, et je vais rester focus là-dessus. Donc focus, ça veut dire être focus sur un objectif et en même temps sur une période donnée. Parce que forcément, si vous sautez toujours du coq à l'âne pour faire plein de 10 millions de choses en même temps, bah, ce focus-là, il se dissout. Ok ? Donc le focus. Ensuite, deuxième élément pour moi, c'est le non-perfectionnisme. Ok ? Donc ça, j'en parle très très souvent. C'est de savoir lâcher quand vous avez fait 80% du job en gros, si vous voulez vraiment rentrer dans le souci des détails et justement si vous avez ce problème de perfectionnisme, vous allez passer pour finaliser les 20% de votre produit qui manque, vous allez passer autant de temps que ce que vous avez passé à faire les 80% de votre produit, de votre offre, ok ? Donc il faut savoir lâcher à ce moment-là, proposer son produit à son public cible pour justement ensuite améliorer ce produit par rapport au feedback qu'on va avoir. Mais si vous retenez votre produit, si vous présentez jamais votre produit à votre audience, du coup, vous ferez jamais connaître votre produit ou trop tard. Et quoi qu'il en soit, il y aura toujours quelque chose à améliorer. Donc, autant le faire entre guillemets le plus vite possible à partir du moment où vous avez un minimum de fondation, ce qu'on appelle le produit minimum viable, et puis vous viendrez perfectionner ça ensuite, enfin l'améliorer en réalité. Donc vraiment ça pour moi c'est un deuxième élément qui est essentiel pour réussir. Le troisième élément je dirais que c'est la patience, ça rejoint un petit peu le focus quelque part, mais j'entends trop souvent des gens qui publient pendant 2-3 semaines sur Instagram, ils disent ouais ça marche pas. Bah ça marche pas. Moi, j'ai publié sur Instagram avril, mai, juin, juillet, août, pendant près de 5 mois, 6 mois, j'ai publié un post par jour, tous les jours à la même heure, des stories quotidiennes aussi, plus un contenu d'expertise à côté, etc. Donc, ça n'a pas marché non plus tout de suite. J'ai commencé avec 0 abonné, et puis 50, et puis 100, et puis 150, et ainsi de suite. Donc, il faut du temps pour construire encore plus, du coup, aujourd'hui aussi, parce qu'on est plus nombreux, parce que, nous, en ce qui nous concerne, le yoga en ligne, etc., ça se développe. Donc, oui, il faut déjà savoir se différencier, mais il faut aussi être patient. Et vous pouvez pas tester un truc et au bout de 2 semaines dire ça marche pas, j'abandonne, j'essaye autre chose, parce que là pour le coup vous réussirez jamais en fait. Donc voilà, je dirais que à partir du moment où vous avez vos objectifs et votre stratégie qui est en place, bah derrière c'est le focus, ne pas être perfectionniste et la patience. 12e question, quelle plateforme utiliser pour la création d'un programme? Pour héberger un programme en ligne, vous pouvez utiliser, donc moi je recommande la plateforme System.io, j'ai d'ailleurs un lien affilié si vous voulez tester, je vous mettrai le lien dans les notes de cet épisode. Donc moi j'y héberge par exemple mon programme, mais aussi ma mailing list, mes tunnels de vente, etc. etc. Et beaucoup des élèves de YogiBizLine d'ailleurs vont sortir leur programme dessus également. Après sinon vous avez d'autres plateformes comme Podia, Teachable, Kajabi. Donc, il faut vous familiariser avec chaque outil. Mais moi, je préconise System.io parce que c'est un très bon rapport qualité-prix. À partir de 27 euros par mois, vous pouvez avoir une plateforme pour héberger votre formation et également pour avoir votre liste email, vos tunnels de vente, vos pages de capture, etc. Aussi parce que c'est en français. Du coup, quand on n'y connaît rien en technique, je trouve que du coup, c'est hyper facilitant. 13e question, combien de temps estimes-tu que ça prend de vivre de son business en ligne? Alors, il n'y a pas vraiment de bonne réponse à cette question. D'abord parce que vivre de son business en ligne, c'est combien? Chacun a sa propre notion de vivre de son activité, je dirais. Et puis, ça va aussi dépendre du temps que vous avez à y consacrer, si vous y consacrez à plein temps ou pas. Et si c'est à plein temps, c'est combien d'heures par semaine? Ça va dépendre aussi du coup de votre positionnement. et de votre stratégie de produit, votre stratégie de vente, enfin, quelle offre vous allez lancer, comment vous allez la lancer. Donc voilà, il y a beaucoup d'inconnus en fait qui ne me permettent pas de répondre précisément à cette question, sans oublier qu'il y aura toujours aussi un facteur opportunité et un facteur chance qui rentreront en jeu. Moi, par exemple, quand j'ai créé Yogi Bizline au tout début, pas Yogi Bizline, Yogi Biz Coaching, qui s'appelait d'ailleurs Yoga Business Coaching au début, on était avant la pandémie. Je pense que s'il n'y avait pas eu la pandémie, j'aurais mis beaucoup plus de temps à éduquer les profs de yoga, à enseigner le yoga en ligne. J'aurais, je pense, travaillé assez rapidement sur cette histoire de visibilité, parce que les réseaux sociaux sont à la mode déjà depuis plusieurs années, et sur le fait, par exemple, de créer des programmes, des memberships, de donner des cours en ligne, ça aurait été beaucoup plus long. Et forcément, c'est la pandémie qui a accéléré ce phénomène-là. Donc là, on est sur un petit peu un marché d'opportunités. Donc voilà, ça aussi, ça va rentrer en compte. Par contre, c'est vrai que je dirais qu'une fois que vous avez, admettons, si vous voulez vous y consacrer à plein temps, et presque à plein temps, et que vous avez un positionnement qui est clair, vous savez où vous voulez aller, à partir de là, en revanche, ça peut quand même aller globalement assez vite. C'est-à-dire, pour moi, vous pouvez gagner vos premiers euros déjà avec un produit digital facile, allez, à partir de 3 mois, puisque moi-même, du coup, j'ai un programme sur 3 mois pour créer un produit digital, une offre en ligne, et entre 3 et 6 mois. Donc voilà, donc ça peut quand même aller relativement rapidement. Après, voilà, ça va dépendre aussi du coup de votre état d'esprit par rapport à tout ça, de votre offre, etc., etc. Donc, difficile de répondre à cette question, mais entre 3 et 6 mois, si votre positionnement il est clair et que vous savez où vous allez, vous avez une stratégie, vous êtes coaché ou autre, vous pouvez déclencher vos premiers euros, c'est sûr. 14e question, est-ce possible de combiner en ligne et hors ligne avec succès? Donc oui, bien sûr, c'est complètement possible. Vous pouvez très bien avoir un membership ou un programme en ligne ou autre, et à côté de ça, continuer à avoir des cours privés, à organiser des retraites. D'ailleurs, vous pourrez même justement faire de ces retraites un argument ou en tout cas en faire une offre packagée aussi dans vos programmes ou dans vos memberships. Vous pouvez aussi continuer, enfin, avoir des collabs, justement, géographiquement, on en parlait, etc. Donc oui, bien sûr, c'est possible. 15e question, quel ratio info-publicité personnelle sur... publicité, promotion, en fait, hein, sur Insta. Donc ça, c'est plutôt par rapport au contenu des posts. Donc... Alors, ça serait du 80-20, en fait. 80 de contenu éducatif, inspirationnel, motivant, etc. Et 20% de contenu promotionnel, donc qui parle de vos offres payantes, de vos cours, de vos programmes, de vos memberships, de vos cours privés, etc. Ce qu'il faut, c'est une répétition régulière de votre contenu promotionnel, hein, donc faut pas hésiter vraiment à avoir ce point de passage hebdomadaire pour parler de vos offres, donc un réseau, hein, de 20-80 en termes de ratio. Et puis surtout, il faut aussi avoir de l'appel à l'action dans vos contenus. Il faut régulièrement inciter votre public cible à passer à l'action, pour qu'il s'habitue justement à faire quelque chose avec vous, et donc que ça ne le surprenne pas le jour où vous allez lui demander, ou en tout cas l'orienter vers... vous allez l'habituer en fait à ce que vous vendiez quelque chose, et lui, il va s'habituer à acheter avec vous. Donc ça, c'est vachement important. Après, ce contenu promotionnel, il n'a pas besoin d'être « pushy » entre guillemets. C'est-à-dire que ça peut être aussi juste de partager vos coulisses pour dire oui, j'ai tel produit, etc. Voilà où j'en suis, ou comment ça se passe. Ça peut être aussi du contenu promotionnel, ça peut être une liste attente, ça peut être des boîtes à questions, etc. Enfin, je veux dire, la façon de parler de vos offres, en tout cas, dans votre contenu, elle peut être fun et sympa. Enfin, voilà, montrer vos coulisses, faire des sondages, créer une liste d'attente, faire des boîtes à questions, etc. Donc, c'est aussi, notamment via les stories, vous pouvez faire ce type de contenu. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut habituer votre audience à parler de vos... il faut que votre audience soit habituée à ce que vous parliez de vos produits ou de vos futurs produits. Parce que si vous donnez énormément de contenu gratuit et que vous parlez jamais de vos offres, du coup, on va vous catégoriser dans... c'est du contenu gratuit, quoi. C'est une créatrice de contenu, point barre, quoi. Alors que non, vous êtes quand même là pour vendre, vous avez un business derrière. Donc voilà, il suffit juste de donner l'habitude à son audience qu'on apporte de la valeur, mais on a aussi des offres, on a aussi des choses à vendre. 16e question, est-ce utile de créer un blog ? Donc, créer un blog, c'est un type de contenu. Donc, c'est utile si tu aimes écrire déjà, enfin, c'est déjà un premier élément. Et de deux, si ton client idéal, il aime lire des articles de blog, si c'est une de ses sources de contenu favorites en fait. Donc, déjà, dans ce cas-là, encore une fois, si on a le match, j'aime écrire, j'aime produire ce genre de contenu et mon client idéal, ça tombe bien parce qu'il aime bien lire les articles de blog, oui, dans ce cas-là, c'est forcément utile dans ta stratégie de contenu de créer un blog. Et après, par contre, ça le sera aussi, ou en tout cas, ce sera efficace que si tu publies de manière hebdomadaire, en tout cas avec régularité, et que c'est du contenu forcément qui répond aux problématiques de ton client. Si tu n'aimes pas écrire, si ton client idéal, il préfère les podcasts et si en plus du coup, comme tu n'aimes pas ça et que ton client n'aime pas ça, tu n'as pas de résultat et du coup, tu n'es pas régulière, etc. Dans ce cas-là, ça ne sert à rien de créer un blog. Au même titre que c'est pas forcément incontournable parce que attention à la confusion entre blog et site. Hein, on peut avoir un site et, pas de faire, et ne pas faire de blogging et on peut avoir un site et faire du blogging. Donc voilà, au même titre que c'est pas non plus indispensable de créer un site pour lancer son activité en ligne. Ça, j'en parle aussi souvent puisque ça fait partie de mon positionnement. 17e question, comment bien vendre ses offres quand on est sur les réseaux depuis peu ? Eh ben, c'est un petit peu comme quand on est sur les réseaux depuis longtemps, c'est que déjà, il faut en parler régulièrement. Et il faut aussi penser le plus rapidement possible à convertir les gens qui te suivent sur les réseaux, enfin tes abonnés, en abonnés à ta liste email. En fait, le taux de conversion, il est meilleur sur notre liste email parce que les gens, du coup, sont déjà qualifiés et s'ils vont jusqu'à télécharger nos ressources et jusqu'à nous donner nos adresses mail, c'est qu'ils sont vraiment intéressés par ce qu'on propose. Donc, dans ce cas-là, tu as plus de chances, du coup, de vendre tes offres, d'avoir plus d'engagement, des gens qui vont répondre plus présents à tes produits. Et en plus, du coup, quand tu leur transmets l'info sur tes offres, sur ce que tu fais, ce que tu proposes, etc. par mail, du coup, ils sont pas perturbés par autre chose. Ils sont concentrés, ils sont en one-to-one avec toi. Ils sont en train de lire ce que tu leur proposes. Donc, il y a des chances que tu aies plus d'impact. 18e question, le plus important à prioriser quand on manque de temps. Alors, très clairement, se concentrer sur une seule offre, je dirais même quand on a du temps, mais voilà, pour moi, c'est incontournable. N'avoir aussi qu'un seul contenu hebdomadaire et un seul réseau social, donc pas commencer à se disperser, à faire tout en même temps. Et pourquoi pas, peut-être, pour accélérer, si on a bien un client idéal défini, faire de la publicité. 19e question, comment lancer une formation en ligne ? Eh bien, tout simplement, non, ça n'a rien de simple, hein, mais il y a des méthodes qui fonctionnent, puisque c'est d'ailleurs ce que j'enseigne dans Yogi Bizline. Donc, en identifiant le besoin de son client idéal d'abord, en testant cette idée auprès de son client idéal, on ne va pas du tout créer quoi que ce soit avant de tester son idée. Et à partir de là, ensuite, on va pouvoir se lancer avec un bêta-test, une première version de notre formation. Et pendant le temps où on va créer un petit peu les bases de notre formation, créer le lancement, etc., et ben on va continuer du coup à développer notre visibilité. C'est un petit peu le pré-lancement de notre offre en fait. Donc autour vraiment de notre expertise et de ce qu'on va proposer dans notre offre pour vraiment réchauffer finalement notre public sur cette formation en ligne qu'on va lancer, donc au travers notamment de notre stratégie de contenu. 20e question, comment avoir plus d'interactions avec mes abonnés ? Alors oui, j'aime bien cette question. C'est une petite technique, mais vous pouvez déjà essayer de répondre aux commentaires par une question. Donc l'avantage en fait, c'est que du coup, plutôt que de se contenter peut-être des fois d'un commentaire un peu superficiel, on va aller creuser et du coup, donc ça va permettre à la fois d'avoir plus d'interactions et en même temps de plus les connaître. Et moi, j'aime bien aussi leur poser une question plus détaillée ou selon le commentaire qu'ils m'ont laissé, les inviter à me répondre ou à m'en dire plus en DM. Et du coup, bah, là, en DM, je vais pouvoir engager une vraie conversation. Donc ça, vraiment, je trouve que pour avoir plus d'interactions avec ses abonnés, c'est l'idéal. Donc, répondre aux commentaires par une question ou du coup, les inviter en fait à nous en dire plus et à venir nous rejoindre en DM pour échanger. Et bah, bien évidemment aussi par toutes les options de sondages, stickers, etc. qui existent, puisque logiquement vos abonnés vont adorer que vous leur posiez des questions. 21e question, comment améliorer ma visibilité? Donc pour améliorer votre visibilité, bah, déjà ça va effectivement passer par votre contenu qui idéalement doit être un contenu qu'on a envie de repartager. Donc en termes de contenu, ce qui se repartage le plus facilement souvent, c'est tout ce qui est citation, contenu un petit peu humoristique ou des posts qui jouent vraiment sur de l'émotion. Et où on peut se reconnaître en fait. Donc ça marche très bien. Donc ça en général c'est viral et c'est souvent repartagé. C'est ce que vous voyez d'ailleurs le plus souvent en story. Vous pouvez améliorer votre visibilité aussi grâce aux hashtags. Donc du coup il ne faut pas hésiter à utiliser des hashtags différents, à faire des tests. Vous pouvez améliorer votre visibilité avec des appels à l'action clairs, donc c'est-à-dire par exemple en invitant les gens clairement à repartager votre post ou à taguer quelqu'un que ça pourrait intéresser. Comme je l'ai dit tout à l'heure en préambule pour se faire connaître localement, mais c'est valable aussi pour développer sa visibilité, c'est de partager en story des posts d'autres comptes qui auraient une audience similaire à la vôtre, donc qui sont soit qui touchent le même public cible ou en tout cas sur le même marché. Taguer aussi du coup des lieux, des marques avec une audience similaire pour être vous-même repartagé et du coup bah, bénéficier de leur réseau, de leurs abonnés. Intervenir sur des comptes partenaires, bah, là encore parce qu'on va être dans le partage d'audience, hein, donc voilà. Et faire des lives aussi, donc en collab, notamment sur vos comptes, parce que du coup, bah pareil en fait, hein, si vous faites venir quelqu'un sur votre compte, bah probablement qu'il va en faire la promo sur son compte à lui, et donc du coup, il va emmener son audience sur votre compte, et si ça leur plaît, bah ils vont s'abonner, et donc voire même aller plus loin si votre tunnel, votre stratégie elle est bien mise en place. Donc du coup voilà, pour améliorer votre visibilité, il y a toutes ces actions là que vous pouvez mener. 22e question, comment être à l'aise en story Instagram? Alors moi ce que je vous recommande déjà, c'est que quand vous planifiez justement votre contenu hebdomadaire, dites-vous aussi quelles sont les stories associées que vous pourriez partager justement pour peut-être vous exprimer aussi de manière plus authentique, plus spontanée sur les sujets que vous publiez ou les sujets que vous avez envie de parler en fait, et puis vous pouvez choisir plusieurs sujets par jour ou un par jour. Je vous recommande aussi de pas perdre votre temps dans les bonjour, voilà, aujourd'hui, passez directement à l'action. Je viens vous parler d'eux et voilà, parce que les gens, ils ont pas trop de temps à perdre non plus. Et du coup, bah vous, ça vous permet aussi justement d'aller directement dans le vif du sujet. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs à préparer un peu vos bullet points hein, de ce que vous voulez dire. Et puis, si vraiment vous avez un petit problème avec l'image ou quoi, ou vous ne sentez pas super à l'aise physiquement par exemple, bah, n'hésitez pas à mettre un petit filtre sympa, soit humoristique, soit voilà, que vous aimez bien parce que ça vous donne de la couleur ou autre. Et du coup, ça va vous donner un petit peu plus confiance. Donc ça, c'est OK aussi. Moi, je trouve que autant en profiter. Et surtout, bah, essayez en fait. Parce que tant que vous ne passez pas à l'action, bah, vous n'allez pas vous entraîner. Du coup, c'est quelque chose que vous maîtriserez pas et donc in fine bah, vous passerez, enfin voilà, tant que vous n'avez pas essayé, forcément vous ne pourrez pas vous familiariser avec l'exercice. Donc vraiment bah, il faut le faire, il faut y aller, et pour ça bah, dites-vous que vous avez des choses intéressantes à délivrer à votre communauté, à votre public cible. Donc pensez plutôt à eux, à ce que vous avez à leur apporter, et puis bah, à la proximité que vous avez envie de créer avec vous et que, avec eux, et que eux ont envie aussi certainement de créer avec vous. Et du coup, bah voilà, pensez à eux, à ce que vous avez à leur apporter en leur parlant directement, et ça devrait vous aider à mettre le pied à l'étrier. Bon, j'ai encore été trop bavarde, on arrive à 53 minutes et il me reste encore quelques questions. 23e question, donc quels sont les outils que j'utilise dans mon business? Alors, pour l'emailing, j'utilise System.io. Pour mes tunnels de vente, j'utilise System.io. Pour héberger mon programme, j'utilise System.io. Pour les moyens de paiement, etc., du coup, j'utilise System.io auquel j'ai relié mes paiements, mes comptes Stripe et PayPal. Pour mon podcast, héberger mon podcast, j'utilise Podigy et j'utilise du coup aussi GarageBand pour l'édition. Pour héberger mes ressources, j'utilise YouTube ou mon Drive. J'utilise Zoom pour mes lives et puis pour créer des tutos, etc. J'utilise Freebie pour ma facturation, ma compta. J'utilise Conto pour mon compte professionnel, mon compte en banque professionnelle. J'utilise l'application Splice pour faire des petits montages vidéo sur mon téléphone. Et j'utilise Canva pour mes visuels. Je crois que j'utilise Linktree aussi, du coup, pour mon Instagram. Et voilà, je crois que c'est déjà pas mal, en tout cas dans les outils principaux que j'utilise. 24e question, comment trouver, avoir le bon nom pour son entreprise, enfin pour sa marque en fait. Oui, alors ça c'est pour trouver vos noms de réseau, de site, etc. Oui, parce que si on parle de notre nom d'entreprise, hein, déjà en tant qu'auto-entrepreneur, dans la majorité des cas, de toute façon, c'est notre identité, hein, prénom, nom. Mais pour effectivement notre marque, bon, le premier conseil déjà que je peux vous donner, c'est de regarder si, par rapport à l'idée qu'éventuellement vous avez, de regarder si ça existe. Ensuite, si vous n'avez pas d'idée, pour pas piquer le nom de quelqu'un d'autre en fait, hein, et puis en plus, du coup, ça pourrait créer la confusion. Si vous n'avez pas d'idée, évidemment, il va falloir brainstormer. Je vous recommande d'aller vers quelque chose de descriptif, donc c'est-à-dire de très clair, qui annonce clairement ce que vous faites. Hein, yoga avec Cécile, yoga du dos avec Cécile, par exemple. Voilà. Donc ça, je vous le recommande à 100%. Idéalement, que ce soit court, facile à prononcer et à écrire, parce que comme ça, vous quand même, vous misez, vous mettez toutes les chances de votre côté pour être facile à retrouver, ok. Et ce que je vous recommande aussi, c'est de taper votre nom sur Google. Par exemple, moi, quand je tape YogiBiz, c'est mon podcast qui sort en premier. Donc, voilà, ou YogaBiz, bon, il y a peut-être d'autres comptes, mais... alors que des fois, si vous choisissez un nom un peu commun, entre guillemets, faites attention, parce que s'il y a, je sais pas moi, un groupe de musique qui s'appelle comme ça, ou un magasin, ou s'il y a déjà quelque chose qui existe sous ce nom-là, ou même justement, si vous appelez, des fois, je vois des noms de pranayama ou de posture ou autre dans les noms de marques, et la problématique, en fait, ou des noms d'événements un peu holistiques ou autres, et la problématique, c'est qu'en fait, vous allez forcément être noyé dans les recherches, parce que déjà, vous êtes sur quelque chose de commun et qu'il y a des marques qui ont un SEO qui est beaucoup plus puissant que vous et du coup qui ressortent en priorité. Donc vraiment tapez le nom que vous envisagez sur Google pour voir si vous ressortez dans les premières recherches ou dans les uniques recherches, mais vaut mieux ça que d'être noyé si votre nom il est trop commun finalement. Faites attention aussi à tout ce qui est tendance, effet de mode, etc. Parce que le risque, c'est de se lasser très vite en fait de votre nom de marque. Ça serait un peu dommage de changer tous les 4 matins. Donc voilà quelques conseils. Moi, je suis pour les noms descriptifs et pour les petites vérifications en ligne qui font qu'on vous trouvera assez facilement. 25e question, comment récolter des adresses mail? Pour récolter des adresses mail, il faut... créer donc un contenu gratuit, ce qu'on appelle un freebie ou un lead magnet. Lead magnet, littéralement, ça veut dire aimant à client. Donc un cadeau gratuit. Et il faut que ce cadeau gratuit réponde à l'une des plus grosses problématiques de votre client idéal. Donc, il faut d'abord que vous ayez votre cible. Ensuite, il faut savoir ce dont votre cible a besoin ou en tout cas, quelle est sa plus grosse problématique. Répondre à une partie ou sur un bout de cette problématique dans un contenu gratuit et promouvoir ce contenu gratuit pour que votre public cible télécharge ce contenu en échange de sa liste email. Et donc, à partir de là, il vous faut forcément un logiciel d'emailing puisque vous en aurez besoin pour avoir justement ces contacts à un endroit, enfin que ces contacts soient enregistrés, et puis vous en aurez aussi besoin pour créer les pages de capture, donc c'est-à-dire la page où justement on va vous laisser notre adresse mail. Donc tout ça, vous pouvez le faire au sein de votre fournisseur d'emailing. Donc voilà, globalement, pour récolter des adresses mail, il vous faut un cadeau gratuit et un serveur d'emailing, comme System.io par exemple, ou MailerLite si vous voulez quelque chose de gratuit. 26e question, quel matériel utilises-tu pour ton podcast? Alors, pour mon podcast, j'utilise encore aujourd'hui mon dictaphone parce que j'ai pas eu le temps de m'occuper de mon beau nouveau micro qui est le micro Rode NT là. Donc pour l'instant j'utilise toujours mon dictaphone d'iPhone, mais j'utilise GarageBand donc pour le montage, qui est une application gratuite livrée avec le Mac en fait. J'utilise Podigy pour l'héberger et j'utilise Canva et Headliner pour le promouvoir sur mes réseaux. 27e question, je ne peux pas vendre de produits en ligne avec une trop petite audience. Alors, si, mais on en a parlé tout à l'heure du coup, hein, la petite audience, ça doit vraiment pas être un frein, sous-estimez vraiment pas votre audience. Alors évidemment, hein, peut-être que 5 ou 6 personnes, c'est pas assez, mais c'est pas non plus nécessaire d'avoir 1000 contacts pour commencer à vendre. Donc voilà, l'essentiel, c'est que au sein de votre audience, il y ait votre client idéal. Et puis, ça veut juste dire que effectivement, vous ne ferez peut-être pas en volume un certain nombre de ventes, mais après, vous aurez tout le temps pour développer votre produit, l'améliorer, faire plusieurs lancements. Et puis, pendant ce temps-là, vous allez du coup continuer de développer votre audience et votre visibilité. Donc, c'est OK. Donc, surtout, il ne faut pas que ce soit un frein. Au contraire, il vaut mieux se lancer avec une petite audience. Comme ça, en plus, si jamais c'est pas le top du top, y a moins de monde qui verra que ça va pas. Et vous aurez déjà des pistes pour améliorer votre produit et toucher plus de monde. 28e question, comment garder le lien avec son audience à distance pour ensuite proposer des retraites événements? Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire garder le lien avec son audience à distance, que bon, pour moi, de toute façon, même si on est à distance, en fait, c'est très facile de garder le lien justement avec les réseaux. Pour moi, garder le lien pour ensuite pouvoir vendre des retraites événements, si c'est peut-être qu'en ce moment, par exemple, vous ne pouvez pas donner de cours en présentiel, il s'agit de continuer à montrer votre expertise, à apporter du contenu de valeur, hein, donc un petit peu tout ce qu'on a vu au fur et à mesure de cette FAQ. Continuer aussi à créer du lien, donc discuter, engager votre communauté, etc. Donc ça change pas, je dirais, Et par contre, ce qu'il faut, c'est parler justement de ce projet de retraite et d'événements, de vos projets régulièrement. Poser aussi, pourquoi pas, des questions par rapport à ça, à leurs attentes, etc. Enfin, être en fait dans un teasing un peu permanent. Et moi, ce que je vous recommande quand vous voulez pour lancer des retraites, c'est de créer une liste d'attente. C'est-à-dire, je souhaite être prévenue de la prochaine retraite. Donc, vous créez une liste d'attente par rapport à ça. Les gens qui vont bien aimer votre yoga, votre contenu, votre positionnement, etc., ils vont voir cet appel à l'action. Enfin, et vous allez parler, du coup, de cet appel à l'action régulièrement à chaque fois que vous allez parler de vos futures retraites, de vos futurs événements. Et du coup, les gens, en fait, vont s'inscrire sur cette liste d'attente. Et le jour où vous aurez les modalités de votre retraite, vous aurez déjà un paquet de gens intéressés à qui vous allez pouvoir vous adresser. Et vous verrez qu'ils convertiront beaucoup plus facilement. Donc, plutôt que d'arriver comme un cheveu sur la soupe en disant ça y est, j'ai une retraite dans 2 mois à tel endroit, etc., n'hésitez pas à mettre en place une liste d'attente. Je crois que c'était la dernière question que j'avais notée effectivement. Alors après, il y avait plein d'autres questions comme comment mettre en place une newsletter. Donc ça, j'ai fait 2 épisodes de podcast sur ce sujet que vous pouvez retrouver facilement, et j'ai une ressource à télécharger où je propose 52 idées de newsletter, donc en gros des idées pour toute l'année si vous envoyez une newsletter hebdomadaire. On m'a aussi demandé les étapes pour créer un programme en ligne. Donc ça, pareil, sur mon compte Instagram YogiBiz Coaching, vous pouvez retrouver dans mes ressources, dans ma bio, une roadmap pour créer votre programme en ligne, donc avec toutes les différentes étapes. Comment faire pour créer son compte Instagram, quel contenu créer, etc. Donc là aussi, dans mes ressources, vous retrouverez une masterclass qui est hébergée du coup donc sur YouTube. C'est une masterclass en vidéo qui vous explique comment développer votre business grâce à votre compte Instagram avec tous les fondamentaux d'un compte Instagram. J'ai aussi eu des questions sur le matériel vidéo, comment tourner les vidéos, etc. Donc bon, j'ai un épisode de podcast qui parle de YouTube, mais si vous voulez être plus sur le côté technique des vidéos, il y a aussi un guide complet à télécharger dans mes ressources. Comment vous démarquer de la concurrence, vous retrouverez aussi un guide complet pour vous aider justement à vous positionner, à connaître votre client idéal et donc à vous démarquer. Et enfin, j'ai eu des questions aussi sur comment se faire payer en ligne, organiser les réservations, etc. Comment donner des cours en ligne. Donc là, pareil, j'ai créé un guide pour enseigner le yoga en ligne dans lequel vraiment vous retrouvez même des tutos pour installer Calendly, pour relier vos moyens de paiement, pour relier les invitations Zoom, etc. Donc vraiment, quel matériel utiliser, comment organiser vos cours en ligne, quel prix, etc. Donc allez faire un tour dans ma bio sur mon compte Instagram YogiBiz Coaching et vous retrouverez plein de ressources qui probablement répondront aussi à vos questions si toutefois j'y ai pas répondu aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, je peux aussi refaire un épisode FAQ ou peut-être pourquoi pas un live d'ailleurs. Donc ce que je vais faire, c'est que je mettrai une petite box à questions là sur mon compte Instagram. Et puis si vous écoutez cet épisode en dehors de sa date de lancement, bah, n'hésitez pas à venir me poser vos questions en DM. Je vous rappelle que la liste d'attente pour la formation sur créer et lancer un challenge de yoga qui convertit donc est toujours ouverte. Vous la retrouverez aussi dans la bio de mon compte Instagram. Donc voilà, je vous remercie beaucoup en tout cas pour toutes vos questions. C'est toujours un plaisir de vous apporter ces réponses. Merci de votre longue écoute et on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.